demi, quelque chose comme ça, sur 20, on va passer à A+. En fait, on n'en sait strictement rien. Les taux d'intérêt, hier soir, j'ai regardé sur la dette publique française à 10 ans, c'était 3,10. C'est vrai que ça a augmenté ces dernières semaines. Les autres ont aussi augmenté. C'est plus un enjeu politique qu'un enjeu financier.
Verdict tout à l'heure. Merci messieurs, merci Thomas Porcher, Dominique Seux.
Il est 8h sur France Inter. Le journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, l'échéance se rapproche comme la flamme olympique. Remise aujourd'hui aux organisateurs français des Jeux à Athènes. Avant de prendre la mer, demain à bord du Belém, direction Marseille. Nous sommes en Grèce dans un instant. Et avec tous ceux qui se posent des questions très pratiques. À 3 mois de l'ouverture de la compétition, une équipe leur répond personnellement sur un site du gouvernement. Ce matin, on parle aussi de notes très attendues et redoutée, celle des agences Fitch et Moody's. Sur l'état de la dette, on vient d'en parler dans le débat éco, personne ne s'attend à un bon bulletin. Nous serons à Vergèze, lieu du puits contaminé de Perrier dans le Gard qui vient de détruire 2 millions de bouteilles. On entendra des enfants ukrainiens de retour dans leur famille après avoir été transférés de force en Russie. Et on parlera du dernier livre d'Edouard Louis, Monique s'évade. Monique, c'est sa mère. Et votre invité Ali et Marion à 8h20, qui est-il?
Vous l'avez aimé en juillet août dernier sur France Inter, vous allez l'adorer dans son livre qui sort mercredi prochain. William Marx, professeur au Collège de France, publie avec France Inter Un été avec Don Quichotte, ouvrage qui s'adresse aux amateurs du chevalier ou même au Don Quichotte qui sommeille en vous.
Vos questions à propos de ce chef-d'œuvre et de son héros, 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. Une dernière étape entre marathon et le stade panathénaïque d'Athènes et la flamme sera française. Remise à 18h30 à Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, sur fond de Marseillaise et d'hymne grec interprété par Nana Mouskouri. Puis ce sera le grand voyage à bord du Belém, direction Massilia, Marseille, fondée par les Grecs il y a 26 siècles. Rendez-vous demain pour l'appareillage au port du Pirée. La flamme y prendra ses quartiers pour traverser la Méditerranée. Année reportage sur place, signé Jérôme Val.
Au milieu des ferries et des bateaux de croisière, le Belém avec sa coque noire et blanche détonne un peu au port du Pirée. Le trois-mâts construit en 1896, l'année des premiers JO de l'ère moderne, patiente en attendant sa précieuse cargaison.
Cette flamme, on va l'accueillir ici dans ce ancien grand salon de réception qui date de l'époque anglaise.
C'est le grand rouf au milieu du voilier. Aymeric Gibé est le commandant du Belém depuis 8 ans.
On ne s'interdit pas de la sortir de cette pièce pour qu'elle puisse un peu voyager à travers le bateau, voir du paysage. À titre personnel, je la considère vraiment comme le 49e homme, le 49e personne qui vient avec nous en plus.
La flamme, c'est en fait une petite lanterne surveillée comme le lait sur le feu pour qu'elle ne s'éteigne jamais durant la traversée.
Il faut savoir qu'elle est accompagnée par des gardiens de flamme qui, leur mission à bord, eux, sera de surveiller cette flamme. Tout est sécurisé.
En plus des 16 membres d'équipage, le Belém embarque 16 jeunes sélectionnés partout en France, comme Wari Belkouane, 20 ans, originaire de Marseille.
C'est la plus grosse responsabilité que j'ai eue de toute ma vie parce que je représente les jeunes et même tous les Marseillais, même tous les jeunes à l'échelle internationale pour les Jeux Olympiques. C'est énorme. C'est de responsabilité.
Avec un impératif, arriver dans le vieux port de Marseille le 8 mai.
Marseille où 150 000 personnes accueilleront la flamme. Merci Jérôme Val pour cette nouvelle étape du compte à rebours. Avant l'ouverture des Jeux dans 3 mois pile, le 26 juillet. D'ici là, vous êtes nombreux, notamment en région parisienne, à vous poser des questions pratiques sur la vie pendant la compétition. Le site anticiperlesjeux.gouv.fr nous permet d'y voir plus clair, à la fois sur nos déplacements, Laurent Kramer, mais aussi sur des questions plus personnelles grâce aux réponses sur mesure fournies par l'équipe du site.
Avec 1 million de connexions depuis le mois de février, anticiperlesjeux.gouv.fr dispose d'une vue à 360 degrés sur les sujets qui questionnent à l'approche des JO.
Parmi le top 3 des sujets qu'on reçoit le plus, on a les soins médicaux. On a les livraisons et les périmètres de sécurité. On a des questions parfois très personnelles sur un accouchement cet été.
Comment rejoindre l'hôpital ou aller chercher sa maman dans une zone où la circulation sera limitée? Derrière ce site, une équipe de 8 personnes répond à chaque petite angoisse et tente de trouver une solution à tous les messages. Aïcha Benamou est la responsable de la plateforme.
Sur des soins médicaux, on est sur des personnes qui sont plutôt dans des situations d'inquiétude. Donc déjà, ils ont besoin d'être rassurés. Et à ce stade, parfois, ils n'ont pas encore l'information informations provenant de l'hôpital ou du praticien. Donc moi, mon rôle, c'est de donner l'information à jour.
À quelle heure partir pour rejoindre la Défense sans tomber dans un bain de foule le jour d'une épreuve de natation? Odile Roussillot est la directrice adjointe de la plateforme.
Par exemple, à la Défense, le 31 juillet, j'ai plutôt intérêt à arriver à la Défense à 8h plutôt qu'à 9h, qui sera l'heure d'arrivée des spectateurs à l'aréna. Et ça, on le voit à partir de 9h.
Anticiper les Jeux permet ainsi de prévisualiser dès maintenant, heure par heure, la fréquentation de chaque gare et de trouver, si possible, les solutions de contournement.
Laurent Kramer, et on rappelle l'adresse du site anticiperlesjeux.gouv.fr. Enfin, l'idée même de sa présence, chantant Édith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture, a suffi à provoquer l'ire de l'extrême droite. La chanteuse Aya Nakamura a pour la première fois évoqué la polémique hier soir sur la scène des Flammes, victoire du rap et du R&B, où elle venait de recevoir le trophée de l'artiste féminine de l'année.
Ce trophée, cette victoire-là, c'est pour toutes les Renoirs, pour tes petites, toutes les filles qui me regardent. Mais bien sûr, on vient de loin. Parce que être artiste féminine et en plus noire et qui vient de banlieue, c'est très très difficile. Honnêtement, moi je sais d'où je viens et je sais que j'ai inspiré plus d'une et j'en suis très 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 fière. Franchement, merci à vous. Je reçois tout l'amour, tous les messages, tous les supports, malgré les polémiques, malgré les critiques, etc. Voilà, merci à vous.
Aya Nakamura, artiste féminine de l'année, elle remporte aussi le trophée du rayonnement international à la cérémonie des Flammes qui a récompensé le rappeur Gazo chez les hommes.
8h07, 16 enfants qui retrouvent leur famille.
Ils sont ukrainiens, transférés de force en Russie ou dans les territoires occupés, comme 20 000 enfants depuis le début de la guerre, selon les chiffres de Kiev. Ils viennent de retrouver leurs parents. Retour au compte-gouttes, 400 enfants et adolescents ont ainsi pu être exfiltrés ces derniers mois. Traumatisé, leur retour à la vie familiale est parfois difficile. Reportage à Agathe Mahuet.
Diana a 15 ans. Elle vivait encore avec sa famille à Kherson au début de l'automne 2022, quand les autorités d'occupation russes ont mis en place ces colonies de vacances obligatoires.
Le professeur nous a distribué des formulaires à remplir en nous expliquant qu'on était tous obligés de partir en colo en Crimée.
Avec son petit frère et sa petite sœur, elle se retrouve loin de ses parents, officiellement pour 2 semaines seulement. Mais les Russes ne les laissent pas repartir. 6 mois s'écoulent avant que l'association Save Ukraine ne parvienne à les extraire de Crimée.
Quand j'ai retrouvé ma mère, elle avait plein de larmes, elle nous embrassait en nous disant « Je ne vous lâcherai plus jamais ».
Pourtant, les semaines qui suivent leur retrouvailles ne sont pas simples.
Au début, je ne voulais pas être près de mes parents. Je sais pas, j'étais un peu fâchée contre eux.
Ces séances de thérapie l'aident, mais pour Olena, la psychologue de l'association, les blessures sont bien réelles.
Ils ont des troubles du sommeil ou du comportement alimentaire. Ils ont été séparés longuement de leur famille, donc il faut recoudre petit à petit ces relations.
Diana, elle, dit qu'elle était devenue là-bas comme une deuxième mère pour son petit frère et sa petite sœur. À leur retour, la famille a dû quitter Kherson. Tous reconstruisent peu à peu leur vie désormais ensemble à Kiev.
Agathe Mahuet, correspondante de France Inter en Ukraine avec Yachar Fazilov. À Gaza, c'est un port temporaire qui va faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire. Des soldats américains viennent de commencer la construction d'une jetée prévue pour être opérationnelle début mai dans l'enclave palestinienne assiégée et dévastée après 6 mois de combat entre le Hamas et l'armée israélienne.
Maintenant, cette question, quelle note pour la France en économie?
Les deux grandes agences de notation Fitch et Moody's rendront leur verdict ce soir sur l'état de la dette française. Elle dépasse les 3 000 milliards d'euros avec un déficit public au-dessus des 5% du PIB. Les notes des agences, quand elles baissent, peuvent faire augmenter les taux auxquels un pays emprunte. Mais pas de panique au gouvernement, une dégradation de la note française ne serait finalement pas si grave, Marie Mollet.
Il y a quelques mois, en novembre, Bruno Le Maire faisait lui-même de la note de la France un totem, comme ici sur France Info.
Si demain notre note devait être dégradée, les taux d'intérêt seraient plus élevés, qu'on emprunterait plus cher et qu'on jette des milliards d'euros par la fenêtre pour les intérêts de la dette.
Mais 4 mois plus tard, le ton alarmiste a été enterré. Vous verrez, les taux ne devraient pas s'envoler, répète-t-on désormais à Bercy. Les marchés ont déjà anticipé, puis on a réagi. 20 milliards d'économies annoncées pour cette année. Bref, pas de drame, mais l'exécutif évacue un peu trop vite, estime Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, qui a connu une dégradation de la note française en 2015.
C'est pas non plus anodin, parce que c'est un signe parmi d'autres. Ça va amplifier aux yeux des marchés le fait que la France n'est plus le meilleur pays pour faire ses placements.
Pour lui, le risque est avant tout politique et touche d'abord Emmanuel Macron lui-même.
Qui a inventé le « quoi qu'il en coûte » ? Qui, chaque semaine, s'est promené en promettant milliards sur milliards sur milliards. C'est pas le ministre des Finances, donc c'est le président de la République.
En effet, en cas de baisse, les oppositions vont se précipiter pour nous critiquer, reconnaît un député Renaissance. Éric Ciotti a déjà dégainé. La France, dit-il, emprunte le même chemin que la Grèce.
Marie Mollet et les critiques de Michel Sapin, ancien ministre socialiste de François Hollande. Conséquence de la crise dans l'immobilier, les promoteurs licencient. Nexity vient d'annoncer la suppression de 500 postes. Les réservations de logements construits par ses soins ont chuté d'un tiers au premier trimestre. Perrier, ses bulles et ses bactéries fécales, 2 millions de bouteilles détruites. Et on apprend que ce sont les autorités sanitaires qui l'ont demandé et pas Nestlé qui en a pris l'initiative. Après la contamination d'un de ses puits de Vergès, près de Nîmes, sans doute dû au déversement d'eau usée lors de la tempête du 10 mars dernier. Rémi Brancato, dans cette commune du Gard où Perrier fait travailler 800 à 1000 personnes, on s'interroge sur les contrôles sanitaires menés dans l'usine.
À Vergès, la plupart des habitants font confiance à Nestlé, mais Fabien s'interroge.
On n'a pas le droit de regard, rien du tout. Nestlé, c'est intouchable.
Comme lui, ses ouvriers du centre-ville se questionnent sur l'annonce des 2 millions de bouteilles détruites.
C'est énorme, est-ce qu'il n'y a pas plus ?
C'est sûr et certain, ils ne disent pas tout.
Il s'agit de l'eau produite entre le 10 et le 14 mars, juste après la tempête, mais l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, avait alerté avant et demandé un plan de surveillance renforcé.
À ma connaissance, ce plan, il a été mis en place.
Pascal Fortuna Deschamps, la maire de Vergès, n'en connaît pas les modalités.
Cette surveillance-là, elle est assurée par l'ARS, l'Agence régionale de santé.
Avec ce plan, les analyses et les prélèvements sont plus fréquents, précise la Direction générale de la santé. Claude Ricot, vice-président de l'association de consommateurs CNAFAL en Occitanie, demande encore plus de vigilance.
Il faudra peut-être revoir les choses en matière de changement climatique et se dire que, notamment dans le midi, dès l'instant où il y a des pluies diluviennes, peut-être faudrait-il arrêter de puiser de l'eau. Il peut y avoir des bactéries qui peuvent éventuellement engendrer des impacts sur la santé humaine.
L'an passé, Nestlé a dû retirer des systèmes de filtration interdits pour la production d'eau minérale. 2 de ces 7 forages ont été par la suite déclassifiés et servent désormais à produire des boissons aromatisées.
Rémi Brancato à Vergès dans le Gard. Quand la poste a disparu mais qu'elle revient vers vous en zone rurale, c'est l'expérimentation lancée cette semaine dans l'Orne, la Haute-Marne, la Creuse, le Gers et le Jura. Des camions bureaux jaunes se déplacent et passent une demi-journée par semaine dans chaque commune. Reportage dans le Pays d'Auge, en Normandie, Sarah Mansoura, dans le secteur de Gacé.
À Neuville-sur-Touques, 200 habitants, le camion jaune trône au milieu d'une nature verdoyante. Il a attiré l'œil de Claude.
Donc déposer du courrier, on peut aussi.
Qui n'avait plus vu de service postal ici depuis plus de 50 ans.
On aurait pensé qu'avec le temps, Neuville allait plus ou moins mourir. Enfin, et là, on s'aperçoit que les gens, même aux alentours, viendront.
Dans ces 9 mètres carrés, tout est optimisé pour affranchir, déposer des colis. Mais Angélique accueille aussi les clients avec sa tablette France Service.
On propose aux personnes des accompagnements et ça leur permet de faire leur démarche administrative. Vous avez la CAF, l'assurance maladie, les finances publiques, donc les impôts, France Travail. Si vous avez besoin de demander votre chèque énergie, on peut le faire en ligne.
Je vais revenir pour vous donner du courrier, mesdames.
Un soulagement pour l'adjoint au maire, Patrick Sorel.
C'est quand même très intéressant, je pense, pour les gens. Puis bon, il y a des gens qui ont peu de mobilité, quoi.
Sur le camion, on peut lire « La poste vient à votre rencontre ». Et c'est bien ce qui plaît à Christine, une des postières.
Bah, ils viennent aussi beaucoup discuter. Je crois qu'ils ont besoin de discuter. Donc, je trouve ça formidable. On a le temps de les écouter, c'est très bien.
À la mi-journée, elle plie boutique. Direction Orgères à 15 km.
Tu penses à éteindre et à couper le chauffage, s'il te plaît ?
En tout, le service doit toucher 13 000 habitants sur 9 communes. Cette expérimentation à 1 million d'euros sera réévaluée à la fin de l'année.
Sarah Mansoura, la Poste assure à 97% de la population française une présence à moins de 5 km ou 20 minutes en voiture, avec de fortes disparités toutefois dans certains départements ruraux. Lui aussi vient d'un milieu rural et prolétaire, il le décrit dans ses livres. Édouard Louis est de retour, un peu plus de 10 ans après son apparition sur la scène littéraire, avec Pour en finir avec Eddie Bellegueule. Cette fois, il parle d'une femme dans Monique s'évade. Monique, c'est sa mère et c'est le deuxième troisième livre qu'il lui consacre, Ilana Mor-Youssef.
Dans l'un de ses précédents livres, Combat et métamorphose d'une femme, on avait laissé la mère d'Édouard Louis sur une scène enchanteresse. Elle fumait une cigarette avec Catherine Deneuve sur le trottoir devant chez elle. Cigarette au goût de revanche, elle avait réussi à quitter un mari qui la maltraitait depuis 20 ans. Quelques années plus tard, hélas, coup de fil en larmes à son fils Édouard. Le nouvel homme avec qui elle habite boit et l'injurie. Depuis Athènes, où il est en résidence d'écriture, Édouard Louis l'aide à organiser son départ. Monique s'évade et le récit passionnant et bouleversant de cette fuite. Il dit ce qu'il faut de force et de moyens pour s'arracher à un destin écrit d'avance. Le livre s'achève sur une apothéose. Elle, la femme de rien, assiste à Hambourg à une représentation de sa propre vie sur la scène d'un grand théâtre. De retour à Paris, elle demande à son fils d'écrire le récit de sa nouvelle transformation. Ce livre, en un certain sens, est une commande de ma mère, écrit Édouard Louis. Rien en littérature ne m'avait jamais autant procuré de joie.
Monique Seva d'Édouard Louis, sortie en librairie aujourd'hui, ce vendredi, c'est publié aux éditions du Seuil.
C'était le journal de Florence Paracuellos, il est 8h15 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Marie-Pierre Planchon, le réveil a été plus doux.
Et oui, pratiquement plus de gelée, excepté vers le nord-est, comme dans les trous à froid, comme à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, ou à Beauvais, tout juste zéro, et à Charleville-Mézières. En fait, l'air doux du sud-sud-ouest a pris la main et fait remonter de l'instabilité provenant de la dépression qui, elle, est située sur le golfe de Gascogne, et des averses orageuses arrose déjà le Pays Basque, à l'Occitanie, à la région PACA, mais les Pyrénées et les côtes du Golfe du Lion restent encore sous le soleil ce matin. En revanche, les pluies remontent déjà vers la vallée du Rhône, à la Seine-et-Marne, à l'Alsace, avec de la neige à 1300 mètres sur le Massif central et les Alpes. Et puis la dépression britannique envoie des averses sur les côtes de Manche et Atlantique. Quant à la Corse, elle reste à l'écart.
Davantage d'orages cet après-midi.
Et oui, car la masse d'air va se déstabiliter de...
...prier qu'indispensable. Le plus frappant dans ce discours fleuve, c'est qu'il n'est pas plus tendre pour l'allié américain, dont les pratiques économiques ont le potentiel de marginaliser l'Europe, que pour l'adversaire russe qui la menace militairement, ou pour la Chine qui joue selon d'autres règles.
Et Emmanuel Macron peut-il être entendu en Europe ?
Alors il y a un mélange permanent de fascination et de méfiance chaque fois qu'un Français propose un grand plan pour l'Europe. Ça remonte loin, ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. De nombreux dirigeants européens partagent le constat clinique du président français sur les menaces qui pèsent sur le continent. Mais sont-ils prêts à enfourcher ces solutions ? Le concept d'Europe puissance fait toujours peur à une partie de nos partenaires. Mais si l'on prend comme repère tout ce qui s'est fait en Europe depuis le Covid, l'emprunt collectif par exemple, ou depuis l'Ukraine, le financement en commun d'achats d'armes, ou les investissements stratégiques dans les semi-conducteurs ou les batteries électriques, on peut garder un certain optimisme. Et il faut surtout se souvenir du moment. Nous sommes à 6 mois d'une élection américaine majeure qui peut voir gagner un homme qui déteste l'Union européenne. Le 5 novembre, si Donald Trump gagne, le discours d'Emmanuel Macron pourra servir de feuille de route dans un monde brutalement devenu plus dangereux. D'ici là, il servira d'abord de programme électoral à ses partisans.
Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique à suivre, le grand entretien avec William Marx.
France Inter, 9h20, Rebecca Manzoni.
Un cow-boy danois, une dédicace à Agnès Varda et une chasse au canard. Cette semaine, rendez-vous avec Viggo Mortensen, comédien et cinéaste.
Totémique, tous les vendredis à 9h20 sur Inter.
France Inter, partenaire de l'agenda culturel des Jeux 2024, du Parisien Aujourd'hui en France Week-end. Calendrier et infos pratiques des temps forts en Île-de-France et en région. Exposition, art de la rue, danse, littérature, musique, cinéma, théâtre. 32 pages pour profiter au mieux des événements culturels et artistiques autour des Jeux. L'agenda culturel des Jeux 2024, un supplément Le Parisien Aujourd'hui en France Week-end. À lire aujourd'hui avec votre quotidien. Un partenariat France Inter.
Il est 8h22.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Grand entretien d'Inter ce matin avec Marion Lourd. Nous recevons un écrivain, un immense lecteur, un très grand professeur de littérature. Il occupe la chaire de littérature comparée au Collège de France. Les auditeurs de France Inter se sont passionnés l'an dernier pour sa traversée d'été avec Don Quichotte. Une série que l'on pourra désormais lire à partir de la semaine prochaine avec la publication d'Un été avec Don Quichotte. C'est une publication Équateur, France Inter. Don Quichotte, c'est un livre qui est traversé par des enjeux très contemporains, les mondes virtuels, le complotisme, l'importance des utopies, l'engagement. C'est un livre qui a fait rire l'Europe, un livre qui est considéré comme le premier roman moderne. Bonjour William Marx.
Bonjour Ali Badou.
Et
bonjour.
Bienvenue. Vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 sur ce chef-d'œuvre. Vous pouvez également poser toutes vos questions à William Marx. On va partir de ce qui est le plus simple, chef-d'œuvre inconnu, c'est très paradoxal. Don Quichotte, tout le monde le connaît, le personnage, on connaît l'existence du roman de Cervantes, et pourtant, on ne connaît pas son histoire.
Oh, c'est le principe des chefs-d'œuvre et des classiques. On en a tous entendu parler, mais personne ne les a jamais lus. Et c'est l'objet, justement, d'Un été avec Don Quichotte, d'introduire à cette lecture. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Don Quichotte? J'imagine que c'est ça la question. En fait, c'est le roman de la littérature. C'est le roman de la lecture. C'est le roman qui, le premier, met en scène le lecteur tout-puissant, celui qui invente la réalité à partir des livres qu'il lit. Don Quichotte, c'est un roman du tout début du 17e siècle, écrit par un auteur espagnol, Cervantes, et ça raconte l'histoire d'un gentilhomme qui est tellement obsédé par les romans de chevalerie qu'il a lus, qu'il va essayer de devenir les héros dont il a lu les aventures. Il devient ce qu'on lit. Voilà, c'est devenir ce qu'on lit. C'est ça l'aventure de ce héros. Il va transformer la réalité à partir de tout ce qu'il a lu.
Pourquoi est-ce que c'est un livre magique, pour reprendre le mot de Borges ?
Eh bien, c'est un livre magique parce que c'est un livre qui nous invite à transfigurer la réalité et à mettre en action toutes les puissances de notre imagination, toutes les puissances de notre affabulation. C'est-à-dire à voir derrière la réalité ce qu'elle cache ou au contraire à comprendre que la réalité est autre chose que ce qu'elle est.
Alors William Marx, évidemment, si vous avez choisi Don Quichotte, c'est parce qu'il nous parle, parce qu'il est le roman de la littérature, vous venez de le dire, il y a l'œuvre littéraire dont on va parler longuement, mais c'est aussi parce qu'il fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous parle dans Don Quichotte aujourd'hui? Je pense par exemple à une phrase, Don Quichotte a beaucoup lu, trop peut-être, vous le disiez, des romans de chevalerie, il s'est inventé une réalité virtuelle, un monde parallèle, ça nous parle ça aujourd'hui?
Et totalement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque époque réinvente sa lecture de Don Quichotte. Au XVIIe siècle, on y voyait une simple farce. À partir du XVIIIe, XIXe siècle, on y voit une sorte de symbole de l'homme tragique. Et je crois qu'en
c'est le côté oignon dont vous parlez.
Oui, c'est le côté oignon. En fait, je pense que le propre des chefs-d'œuvre, c'est qu'on les pèle comme des oignons. Et donc, à chaque fois, il y a une couche de sens différente qui apparaît. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois qu'un roman comme Don Quichotte prend une nouvelle actualité. C'est-à-dire que ces mondes virtuels, cette réalité virtuelle dans laquelle vit Don Quichotte, l'exemple le plus flagrant, il est bien connu, c'est l'attaque contre des moulins à vent.
La scène qu'on connaît tous, en fait.
Qu'il prend pour des géants. Eh bien, donc, c'est comme s'il avait un masque de réalité virtuelle sur lui et qu'il voyait autre chose que de la réalité.
Et en même temps, il n'est pas complètement dupe.
Alors, c'est la grande beauté et c'est le mystère et c'est tout ce qui fait que la profondeur de ce roman, c'est qu'on découvre, au début, on croit que Don Quichotte est en fait un fou, quelqu'un qui se laisse prendre à ses lectures et en fait, on découvre peu à peu que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il n'est pas tout à fait dupe de ses propres illusions. Et du point de vue là, Don Quichotte devient un personnage extrêmement complexe dans lequel le lecteur peut se projeter. Et c'est ce qui fait de cette œuvre une œuvre qui embarque le lecteur dans une aventure dans laquelle il devient lui-même Don Quichotte en vérité.
Pourquoi est-ce que Don Quichotte, William Marx, est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale? Quand on fait des listes, des canons, comme vous l'écriviez dans un article, lorsqu'on fait des listes des grands livres de la littérature mondiale, il y a toujours Don Quichotte.
Oui, ça fait partie des 10 livres les plus traduits dans le monde. Les 10 livres les plus traduits dans le monde. Il est traduit en 140 langues. Enfin, c'est assez incroyable. Et le succès a été européen et mondial dès le départ. Bien, je crois parce que c'est justement le roman qui met en scène la puissance même de la littérature, comme aucun autre roman ne l'a jamais fait. Pour la première fois, quelqu'un, Cervantes, essaie de dire quelle est la puissance même du roman, et il nous fait rentrer dans la puissance de l'imagination. Même.
Et pourtant, il revendique pas complètement la paternité du roman, c'est-à-dire qu'il laisse planer le doute sur est-ce qu'il est l'auteur, est-ce qu'il a traduit un texte, etc. Et puis il écrit aussi, Cervantes, je le cite, il vient d'offrir au public un livre sec comme la paille, pauvre d'intention, dénué de style, médiocre en jeu d'esprit, dépourvu d'érudition et d'enseignement. Pourquoi cette modestie, c'est une pause ?
Mais c'est tout Cervantes et c'est tout l'intérêt du roman. C'est-à-dire que justement, le principe même de ce roman Don Quichotte, c'est de à la fois d'être le premier roman moderne, qu'on vient de le dire, mais d'être le premier roman moderne parce que c'est aussi le dernier des romans. C'est le premier roman qui dit qu'il est un roman.
Le premier et le dernier.
Le premier et le dernier, à cet égard. Il invente cette manière de construire une histoire tout en disant que, attention, je ne suis qu'une affabulation, je ne suis que quelqu'un qui raconte une histoire qui a été racontée par quelqu'un d'autre, et en fait, je suis là un personnage de mon roman. Et donc, en fait, on est dans un roman qui invite le lecteur à entrer dans l'ère du soupçon. Cette ère du soupçon qui a été l'ère de tout le roman contemporain. Ben, je pense à Nathalie Sarraute, je pense au nouveau roman. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui détruit le roman tout en inventant une nouvelle manière de faire le roman.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Don Quichotte sans Chopinta?
Alors ça, c'est le génie de Cervantes, qui du reste avait commencé sa carrière comme auteur de théâtre. Au début, il voulait faire un Don Quichotte qui était tout seul, solitaire, qui marchait sur les chemins de la Manche. Et puis au bout de 40 pages, il se dit, non mais je vais lui adjoindre quelqu'un. Et comme ça, c'est ce Sancho Panza qui est un valet de ferme qui devient l'écuyer de ce faux chevalier qu'est Don Quichotte. Et tout l'intérêt du roman va être ces dialogues permanent entre Sancho Panza et Don Quichotte. Et on ne peut pas dire que Sancho Panza est un personnage secondaire. On ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Et peu à peu, Sancho Panza va prendre une importance et même une profondeur à l'intérieur du roman. Il va devenir beaucoup plus intelligent presque que Don Quichotte et un personnage aussi dans lequel on peut se projeter. On peut dire que Sancho Panza représente le peuple, en fait, à côté de Don Quichotte. Don Quichotte est celui qui est cultivé, etc. Et Sancho Panza va représenter la puissance même de création populaire à partir du langage, la sagesse populaire. Et c'est un personnage d'une drôlerie incroyable.
Vous dites que c'est le roman de la littérature, et en même temps, à plusieurs reprises, il a été rendu fou par les livres, ça vous le dites, vous l'expliquez, et à plusieurs reprises revient l'idée quand même que la littérature et la fiction, c'est ça qui peut nous sauver. Vous dites que c'est le point fixe autour duquel on peut dérouler sa vie avec l'assurance du salut. Il y a plusieurs pages sur ce sujet, on comprend même à la fin, voilà, quand le monde s'écroule autour de vous, quand il n'y a plus de transcendance à laquelle vous raccrochez, Don Quichotte peut encore inspirer tous ceux qui veulent faire de la littérature et de la fiction un point fixe de leur existence. Ça veut dire que Don Quichotte va nous sauver.
Je crois que c'est le message, c'est-à-dire qu'en fait nous avons besoin, et Cervantes écrit quand même ce chef-d'œuvre à un moment où tout s'écroule en Europe, c'est-à-dire que la Terre est délogée de sa position centrale dans l'univers par Copernic. Il y a le catholicisme qui est en lutte, enfin qui se divise avec les protestants et les réformés. Donc,
mais c'est paradoxal,
tout le XVIe siècle. Et donc il y a toutes les illusions sur lesquelles marchait l'Europe s'écroule à ce moment-là. Et Cervantes écrit un roman qui, au contraire, met en jeu la puissance de l'illusion, qui à la fois dénonce l'illusion. C'est ça le premier objet. Et deuxième chose, dit que l'illusion est indispensable au bout du compte pour vivre. Nous avons tous besoin d'une illusion. Alors, l'illusion, c'est un terme un peu négatif, mais on peut dire aussi employer le terme d'utopie.
Utopie.
L'utopie, c'est l'idéalisme, en fait. Don Quichotte est un idéaliste, c'est un justicier. Et il devient un homme extraordinaire, il devient un héros. Lui, l'anti-héros, il a plus de 50 ans, il n'a rien de beau en lui, c'est pas un premier rôle. Et il devient, par la force de l'utopie, par la force de l'idéal, il devient un héros en lequel chacun peut s'identifier.
Il y a de nombreux auditeurs qui veulent vous poser des questions et on va aller rejoindre au standard dans un instant, William Marx, mais vous revenez du Maroc et avant d'entrer dans ce studio, vous disiez que Don Quichotte, c'est un roman méditerranéen.
C'est le roman méditerranéen par excellence.
Pourquoi, oui.
Alors, d'abord, par l'histoire de son auteur, Cervantes, qui a été prisonnier des geôles d'Alger pendant 5 ans. Et puis, en fait, c'est un roman qui met en scène tous ces rapports, toutes ces relations entre le sud et le nord de la Méditerranée, entre l'Espagne et les Maures, hein, les arabo-berbères, hein, qui sont en Afrique du Nord. Et on voit en particulier, il y a cette implication, on voit apparaître ces personnages des Morisques, c'est-à-dire les Maures, les arabo-berbères qui étaient en Espagne, qui avaient été convertis de force à catholicisme, mais qui ensuite, en 1609, ont été chassés d'Espagne et se sont réfugiés en France, en Allemagne et aussi, du reste, on s'en retournait au Maghreb et je reviens de Rabat et on voit effectivement ces Mauriques qui ont construit la Casbah des Oudayas à Rabat et le souvenir même de Cervantes est très présent dans tous les livres qui parlent de l'Afrique du Nord parce que c'est vraiment un personnage et un auteur qui a traversé les deux rives de la Méditerranée.
Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Et bienvenue dans le grand entretien d'Inter. Vous avez une question pour notre invité William Marx.
Oui, tout à fait. Je me suis réintéressé à l'œuvre de Cervantes assez récemment, alors que le premier contact, ça avait été enfant, et je l'avais trouvé ridicule comme personnage, donc je l'avais abandonné. Hein. C'était l'époque où j'idéalisais plutôt les chevaliers. Et que je trouvais qu'il ridiculisait les chevaliers, évidemment, comme Ivan Noé, par exemple. Hein. Enfin, bref. Et c'était, alors aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, et puis l'époque dans laquelle on est, je me demandais, je trouve que les femmes sont peu représentées dans son œuvre, ou alors à travers le personnage de la servante là qui rejoint Don Quichotte dans la grange en pleine nuit et en fait il prend ses cheveux alors il les trouve soyeux alors qu'ils sont comme de la paille etc. Son vêtement qu'il trouve aussi également très très doux comme de la soie alors que c'est une vulgaire toile de jute. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est
bah, question justement William Marx va vous répondre parce qu'il y a une dimension féministe roman.
Oui tout à fait, alors c'est vrai je pense que l'auditeur a raison, il y a ce personnage de Marie Thorne la servante voilà qui est un personnage un peu ridicule mais il y a d'autres personnages de femmes qui sont là présents. Alors, je ne parle pas de Dulcinée, qui est une imagination de Don Quichotte, mais il y a des personnages de femmes puissantes, hein, pour parler comme Léa Salamé, comme Dorothée, qui est une personnage, et qui sont des femmes oppressées, en fait. Des femmes qui ont été violées ou fait l'assaut d'hommes et qui essaient d'échapper au patriarcat. Et en particulier, il y a sous ce discours de cette jeune Marcel, elle s'appelle, qui veut échapper à un poursuivant, hein, qui veut absolument l'épouser, et elle reprend sa liberté, elle se fait bergère et elle tient un discours extrêmement féministe et elle est défendue par Don Quichotte quand elle dit non mais ce n'est pas parce que vous m'aimez parce qu'un homme m'aime que je suis obligée de répondre à cet amour et elle tient un discours féministe qui est absolument soutenu par Don Quichotte et d'autres personnages de femmes sont là très présents et en fait les hommes au bout du compte sont très ridicules dans ce roman. Et en dehors de Marie Thorne, les femmes qui sont là sont des femmes très fortes et des femmes qui se rebellent contre la société et qui essaient de vivre un idéal féminin, un idéal d'émancipation, et qui est celui du reste qui est défendu par Don Quichotte.
À propos d'idéal, il y a une morale un peu dans cette histoire. William Marx, on a un chevalier généreux, idéaliste qui va secourir les plus faibles. En tout cas, c'est son objectif. Ça ne fonctionne pas toujours, voire parfois jamais, mais il se rend compte parfois qu'il joue au chevalier. La leçon de tout ça, c'est qu'il faut s'engager, même en vain, même quand on se rend compte qu'on est parfois ridicule.
C'est un livre sur l'engagement et sur l'idéalisme. À la fois sur le bonheur de l'idéalisme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'avoir un objectif de justice, de bonté, et c'est comme ça qu'on peut devenir un héros. Mais c'est aussi un livre sur les dangers de l'idéalisme, c'est-à-dire que l'idéalisme nous amène souvent à transformer la réalité, à ne pas voir ce qu'il y a réellement, et donc on se heurte, en tant qu'idéaliste, souvent aux contraintes même de la réalité.
Et puis l'histoire de ce jeune homme qui essaye de sauver et puis qui voit ses coups de fouet doublés par sa faute, en fait.
Voilà, c'est parfois, le premier exploit de Don Quichotte. Il voit quelqu'un qui est battu et c'est quelqu'un qui est battu effectivement injustement par son patron. Et il sauve, effectivement, il croit sauver ce jeune homme, mais il s'en va en pensant, oh oui, ça y est, j'ai réglé cette affaire. Et dans son dos, tout d'un suite, le patron reprend de plus belle et manque de faire mourir ce jeune homme. Et donc, en fait, quand on s'engage, il faut aussi pousser jusqu'au bout son engagement. Il faut aussi penser aux conséquences de son action. Et c'est ce que peu à peu apprend Don Quichotte, et nous apprend en tout cas.
Et malheureusement, ou en tout cas peut-être heureusement, d'autres restent dans l'ordre de l'utopie, des illusions. Che Guevara, en quittant Cuba après la Révolution, écrit une lettre qui est restée dans les mémoires à Fidel Castro, et il lui dit qu'il va monter sur Rocinante. Rocinante, c'est le nom du cheval de Don Quichotte, comme s'il avait la conscience que l'utopie, l'illusion, l'idéalisme étaient... 20 peut-être.
Les grands, je crois que c'est Bolivar qui sur son lit de mort disait que il y a trois grands héros auxquels il y a le Christ, il y a Don Quichotte, etc. Les grands hommes politiques se sont toujours à un moment confrontés à cette image de Don Quichotte, c'est-à-dire qu'on essaie d'entrer dans une action idéaliste, de changer le monde, et au bout du compte, le monde vous rattrape.
Mais nous avons besoin de mythes.
Mais on a besoin de mythes. C'est exactement ce que disait Paul Valéry. Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas? Que serions-nous sans prend le secours de ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire que nous avons besoin, pour faire sens de notre existence, nous avons besoin d'aimer. Alors pour certains c'est la religion, pour certains c'est l'engagement politique, et on peut avoir l'un et l'autre. Mais l'essentiel, c'est on a besoin de ces mythes pour agir, on a besoin de s'identifier à des modèles. C'est aussi ça que nous dit Don Quichotte. On a besoin de, et c'est pour ça que les romans sont très importants, parce que les romans aussi nous donnent une manière de nous engager, de trouver des modèles pour notre vie. Mais il faut aussi être capable de remettre ces modèles à leur place. Et l'ambiguïté de Don Quichotte, c'est ça. C'est-à-dire que on a besoin des mythes, mais en même temps, il faut savoir que ce ne sont que des mythes. Et c'est cette complexité du roman qui le rend si extraordinaire.
Alors, il y a beaucoup de questions sur l'application France Inter, notamment celle de Marie qui demande s'il existe des adaptations pour enfants de Don Quichotte.
Énormément, en fait, beaucoup de traductions. Il y a beaucoup de textes, de versions pour enfants. Et malheureusement, enfin, je trouve que Don Quichotte, c'est un livre formidable à lire dans l'enfance. Et comme disait l'auditeur tout à l'heure, on peut avoir une première lecture comme enfance, on y voit une simple farce. Mais en vérité, je crois qu'on en découvre tout le sel et toute la profondeur que lorsqu'on est véritablement adulte. Hein. Et donc, je crois que c'est un livre pour tous les âges, vraiment.
Intervention de Geoffrey sur l'application France Inter. Parler de Don Quichotte alors que le Moulin Rouge a perdu ses ailes hier, c'est cocasse. Et il y a quelques interventions dans ce sens-là, ça vous fait sourire?
Mais oui, c'est vrai, c'est un peu la fin d'un mythe, là, on a l'impression, avec le Moulin Rouge. Mais le fait est que nous sommes ici dans le monde des images. Et donc, voilà, il faut savoir que les images ne sont que des images et qu'elles sont parfois sujettes à la mortalité également.
Il y a un mystère. Est-ce que Cervantes a rencontré Shakespeare? C'est l'un des mythes justement qui entoure la vie de ces deux personnages. Et c'est assez curieux, nous sommes au mois d'avril. Le 23 avril, c'est le jour de la mort de Shakespeare. La veille, le 22 avril, c'est la mort de Cervantes.
Oui, oui. C'est vrai, mais c'est une...
C'est une coïncidence troublante, mais vous insistez là-dessus, parce que c'est comme s'il y avait une sorte de hasard objectif.
Exactement. En fait, il y a une sorte de coïncidence entre les deux dates des morts des deux plus grands écrivains de littérature espagnole et le plus grand écrivain de la littérature anglaise.
En 1616.
Cervantes, Shakespeare. Donc en 1616, il meurt à quelques jours de distance. Cervantes est enterré le jour même de la mort de Shakespeare. Et en fait, les historiens de littérature, c'est l'un des grands mystères, se demandent s'ils ne se seraient pas croisés. Parce que, en 1605, il y avait des grandes fêtes à Valladolid, où l'ambassadeur d'Angleterre...
C'est là qu'habitait Cervantes.
Voilà, Cervantes habitait à ce moment-là à Valladolid. Et l'ambassadeur d'Angleterre arrive à Valladolid, peut-être accompagné de Shakespeare. Oui. Et il y avait du reste, à ce moment-là, la première partie de Don Quichotte était déjà parue. Il y avait déjà des spectacles burlesques, des mascarades, où il apparaissait déjà le personnage de Don Quichotte et de Cervantes. En tout cas, ce qu'on sait... Peut-être se sont-ils rencontrés, on ne le sait pas, mais ce dont on est sûr, c'est que Shakespeare a lu Don Quichotte. Et il a écrit une pièce qui était inspirée d'un des épisodes de Don Quichotte, Cardenio, pièce qui est malheureusement perdue. Et ce qui est assez fascinant dans cette histoire, vous parliez de hasard objectif, à la manière des surréalistes, mais c'est vrai que cette coïncidence entre ces deux grands personnages, grands héros des littératures, en fait nous dit quelque chose de la littérature européenne qui se construit à ce moment-là.
Oui.
Et donc ce sont ces deux grands monstre au bout du compte des littératures européennes nous disent quelque chose d'un rapport à la fiction, à la littérature, et cette date du 23 avril est déjà du reste une. Elle a été prise par l'Union européenne comme une date de la Journée mondiale de la lecture.
Mais vous lancez un appel à l'UNESCO.
Mais oui, je crois qu'il faut
en faire.
Mais il faut en faire une journée de l'Europe de la littérature européenne. Et du reste, les Français peuvent se mettre dedans, puisque en fait c'est en France que le succès de Don Quichotte s'est fait en très grande partie. C'est là qu'il y a eu le plus de traductions dès le départ.
Parlons d'Europe justement, puisque vous êtes aussi un grand spécialiste de Paul Valéry, que vous citez d'ailleurs à propos des mythes dans votre livre Un été avec Don Quichotte. Paul Valéry qui a été cité hier par le président de la République, par Emmanuel Macron. Il commence même son discours avec ça. Il dit « Nous devons être lucides aujourd'hui sur le fait que notre Europe est mortelle ». Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre l'Europe de Paul Valéry et la nôtre?
L'Europe de Paul Valéry, c'est en 1919 que Paul Valéry dit que nous autres civilisations, nous sommes mortelles. Et il pense à l'Europe, on sort de la Première Guerre mondiale. Et on est dans un monde où les peuples européens, les nations européennes sont en lutte, en fait, les unes contre les autres. Alors, aujourd'hui, d'autres enjeux sont là. C'est-à-dire que, effectivement, Paul Valéry parle aussi de l'émergence des autres mondes autour de l'Europe, et on voit bien avec la Chine, l'Amérique, et puis l'Afrique aussi, qui est là, et que nous devons exister aussi en tant que continent, et en relation relations avec ces continents. Et je crois que l'importance, on parlions des mythes ici. L'Europe, c'est pas seulement un mythe d'origine, parce que je pense que les mythes d'origine doivent toujours être dépassés. Mais c'est un mythe à venir. Et c'est ça l'avantage des mythes. C'est ça les mythes, ce sont des idéaux, des buts que nous avons devant nous et des utopies que nous avons à construire. Et Valérie n'a cessé toute sa vie durant de vouloir construire cette Europe de l'esprit, cette Europe d'union entre les intellectuels par l'esprit, par les avancées de la recherche, de la science, de la littérature.
Est-ce qu'elle est encore juste comme objectif? Parce que hier, dans le discours du président, on entend l'économie, on entend la défense, on n'entend pas beaucoup l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, encore, vous en appelez, vous, à l'Europe de l'esprit?
C'est absolument fondamental. Et si je publie aujourd'hui, cet été, avec Don Quichotte, c'est justement pour dire qu'on ne peut pas penser la littérature européenne, et pas non plus la littérature mondiale, sans une œuvre étrangère qui est ce chef-d'œuvre de la littérature espagnole et européenne et mondiale, qui est Don Quichotte. Et que, en fait, nous sommes traversés par un ensemble de cultures, de langues étrangères, de littératures étrangères qui nous construisent et qui peuvent continuer à nous faire penser.
Donc si on met les sous-titres à ce que vous dites, William Marx, le président de la République, a fait une comparaison, et comparaison n'est pas raison avec Valérie, puisque Valérie écrit que l'Europe et les civilisations sont mortelles à un moment dramatique et tragique de l'histoire. Le président de la République a un autre moment qui est peut-être moins dévasté, moins dévastateur.
Mais je pense que ce que disait aussi Valérie, c'est qu'il fallait faire vivre un idéal européen. Et donc il ne faut pas seulement se dire... L'Europe ne doit pas être seulement, comment dire, une sorte de recours contre un danger qui nous menace. Il faut aussi voir l'Europe de manière positive, au bout du compte, comme quelque chose que nous pouvons faire advenir, et du reste la construction européenne, hein, depuis tant de décennies, se fait selon des modèles qui n'existent nulle part ailleurs. Alors certains disent, mais alors c'est un problème, parce que ça n'existe nulle part. Mais justement, c'est parce que ça n'existe nulle part ailleurs que nous devons le faire. Parce que c'est cette union entre des nations qui déplaît tant aux nationalistes, avec quelque chose qui est une entité politique qui permet de rassembler toutes ces pensées, toutes ces politiques, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui peut nous faire avancer vers un autre horizon. Et c'est justement l'inexistence qui nous amène à l'existence.
On retourne au standard. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Merci.
Je vous appelais, je voulais savoir si pour William Marx, la littérature devait rester de l'art pour l'art, comme l'était un petit peu le nouveau roman, ou si au contraire, elle devait être engagée pour nous apprendre des choses sur les luttes politiques en cours dans le monde.
Merci pour votre question.
Ben, je pense qu'elle peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut lire des œuvres littéraires qui sont là pour développer la forme pure et la beauté, etc. Et c'est magnifique. On a besoin aussi de ces moments-là. Et puis il y a des œuvres littéraires et actuellement elles sont là de plus en plus présentes. Des œuvres engagées, des œuvres d'autofiction. On parlait du livre d'Edouard Louis, Monique Seva, à l'instant. Et donc qui essaie de s'engager dans le monde, de parler des violences du monde. Et je crois que
vous parlez même de lutte des classes à propos de Don Quichotte.
Ah mais c'est vrai qu'elle est déjà présente à l'intérieur de Don Quichotte, effectivement. Sancho Panza revendique d'être payé et il demande à Don Quichotte, mais est-ce que les écuyers des chevaliers étaient payés comme des maçons? Est-ce que vous allez me payer à la journée ou au mois? Donc, effectivement, le réalisme, Don Quichotte est un roman hyper réaliste. C'est un roman sur l'idéalisme, mais c'est un roman, en fait, qui s'inscrit dans les réalités du temps. Et Cervantes dénonce, en fait, tout ce qui est laissé de côté par l'ensemble des romans habituels, c'est-à-dire à la fois, est-ce que les écuyers sont payés? Les héros font leurs besoins naturels, hein, c'est aussi une question.
C'est
et donc
une
vraie
le
rôle de la mais c'est une vraie question, c'est à la fois très drôle et aussi très important. C'est-à-dire que le rôle de la littérature, c'est de phagocyter le réel, en fait, de faire du réel une matière littéraire. Et beaucoup de choses échappent à la littérature, et les écrivains, les écrivaines sont là aussi pour faire entrer dans les œuvres des choses qui jusque-là n'avaient pas droit de citer.
Il nous reste très peu de temps, William Marx, on file au standard. Catherine, vous posez une question qui est partagé par de très nombreux auditeurs.
Oui. Catherine ? Allô Catherine ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui,
vous êtes en direct.
On vous entend parfaitement.
Oui. Très bien, je trouve passionnant ce que dit votre invité, je le remercie et je vous remercie d'ailleurs au passage. Je voulais lui demander, puisqu'il existe beaucoup de traductions de l'épopée de Don Quichotte, s'il avait envie d'en recommander une particulière, d'expliquer un petit peu pourquoi.
Merci.
Alors écoutez, les trois traductions qui sont présentes, soit en folio ou au livre de poche et au seuil, qui sont présentes sur le marché, sont toutes excellentes. Personnellement, j'ai utilisé pour les émissions En état avec Don Quichotte et pour le livre, la traduction d'Aline Schulman au seuil, parce que c'est sans doute celle qui est la plus directement lisible pour quelqu'un qui ne connaît rien aux langues anciennes. Et donc, c'est celle que je recommanderais pour une première lecture, en tout cas. Voilà.
Merci infiniment, William Marx. Il y a cette phrase où vous parlez de Don Quichotte et où vous dites que c'est devenu une évidence, ce roman, un monument littéraire aussi irréfutable que le sont pour l'architecture le Parthénon et les pyramides d'Égypte ou la Joconde en peinture. Et cette évidence, ça n'est qu'un mirage rétrospectif. Don Quichotte aurait pu ne jamais exister. Et ça, c'est une vérité sur laquelle aimait insister Paul Valéry.
Oui.
Merci infiniment d'avoir été l'invité de France Inter. Un été avec Don Quichotte, c'est donc publié aux éditions Équateur en partenariat avec France Inter. On le recommande chaleureusement. Bonne journée.
Merci à vous.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce vendredi, France Inter, en direct du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel.
Laurent Goumard.
Vivez pendant 3 heures les temps forts du festival. Un peu de love et de tendresse avec Eddy de Préto.
Finalement, c'est ce qu'il nous reste.
Clara Isée viendra illuminer la scène. Et de nouveaux messages personnels à Françoise Hardy.
Une soirée au Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
C'est ce soir sur France Inter de 20h à 23h.
Grand frais.
Oui, bonjour, c'est l'agence de voyage. Pour l'organisation de votre séjour, je peux pas, j'ai grand frais. Bah oui, ma gourmandise et moi, on part à la découverte de nouvelles saveurs. Sans valise, hein, juste un sac de course.
Chez grand frais, on a des perles rares pour tous les goûts. De quoi faire voyager vos papilles en France et ailleurs. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais.
Le meilleur marché.
Merci d'écouter France Inter, il est 8h47.
France Inter, le 6-9.
La revue de presse, Claude Askolovitch. Claude, vous nous parlez d'éternuements.
Qui vont me prendre toute cette journée que j'ai déjà commencé mal fichu. Ah, les yeux qui gratouillent, les paupières lourdes. Et puis donc j'éternue, je tousse, le pic en fond de la gorge, la tête pèse une tonne. Sinusite, bientôt la crise d'asthme. Et ainsi, Sud-Ouest me décrit l'enfer familier dans lequel nous tombons quand les fleurs s'épanouissent et des substances dans l'atmosphère emballent notre système immunitaire. Voici revenu le temps des allergies qui est notre destin. Car Sud-Ouest est implacable et implacable, le docteur Julien Giet qui modélise nos peines au CHU de Bordeaux. Nous sommes de plus en plus allergiques et de plus en plus longtemps. 2% de personnes allergiques il y a 50 ans, 30% aujourd'hui, 50% en 2050. Il y a 30 ans, la période de l'allergie se situait entre mars et mai, désormais de février à octobre. Pourquoi ? Eh bien, la pollution, le changement climatique et nos modes de vie. La pollution modifie les pollens qui deviennent plus allergisants, le changement climatique les libère plus tôt, et dans nos vies, nos maisons, nous subissons lessive détergents qui fragilisent nos peaux et nos muqueuses. Je vous laisse ici dans l'angoisse qui est la mienne, mais lisez quand même dans Sud-Ouest comment la médecine travaille, et sachez qu'il ne faut pas étendre le linge dehors, ni se laver les cheveux avant de se coucher.
Ah oui.
Sur le site du Monde, les allergies me reviennent qui se dissimulaient dans la chimie de parfums familiers. Car allergène était l'huile essentielle de piment baie, ingrédient essentiel de poivre de la maison Caron. Allergène et interdit sont l'atronol et le chloroatranol que l'on a sorti expurgé de la mousse de chêne naturelle, composante essentielle de tabac blond de la même maison. Alors j'apprends par le Monde comment nos normes d'hygiène de santé, nos lois viennent percuter, viennent percuter le monde des odeurs. Nos parfums évoluent, ils changent légèrement, les vrais passionnés s'en rendent compte, pour des raisons scientifiques et impérieuses. On a ainsi banni le lilial qui évoquait le muguet, mais qui était suspecté d'être un perturbateur endocrinien. On a aussi banni le santal indien et banni depuis longtemps le musc tonkin, sécrétion d'une glande du chevrotin porte-musc, animal protégé depuis 1973. Tout ceci est passionnant. Passionnant par l'enjeu, l'odeur et la beauté, cette odeur et cette beauté que l'aîné, les chimistes, s'emploient à préserver dans le chaos de l'époque. Parfois un parfum disparaît parce que de nouvelles contraintes lui imposeraient un tel changement que ce serait profanation. Ainsi, parure de ce guerlain, ne se vend plus que le patron Jean-Paul avait composé pour sa maman. Mes yeux piquent, c'est l'émotion. Peut-être le pollen. Pendant que des poètes chimistes restaurent des parfums, fin, à Aubervilliers, dans une ancienne fabrique d'allumettes, on forme de jeunes artistes à restaurer nos chefs-d'œuvre et nos passés. Fort beau reportage du Figaro Magazine, où vous croisez Flora, bientôt diplômée, qui consolide une robe en coton d'une femme du monde du 19e siècle, et Domiti, que son école envoie à 22 mètres de hauteur, consolider la coupole de la chapelle de la Vierge de l'église Saint-Sulpice. À Strasbourg, me disent les DNA, on barde de sonde la flèche de la cathédrale pour mesurer ce que les aléas climatiques font au grès de l'édifice. On prend le pouls des gargouilles et la température de la pierre. Nous maintiendrons.
On parle aussi d'un président
qui était aussi philosophe. Il s'appelait Giliu Gelev. On était venu le chercher à la fin du communisme pour présider la Bulgarie qu'il s'employa à rimer à l'Union européenne. Et allez lire dans Philosophie Magazine ce portrait d'un prophète européen, fils de paysan pauvre, qui avait voué sa pensée à une théorie de la personnalité dans un régime qui niait l'individu. Sa fille a conservé la table de leur cuisine où la police secrète du communisme avait abrité des micros. Un homme brave et drôle à la fois qui parfois vous fera penser à du Kundera, lui écrivain venu de cette Tchécoslovaquie dont le premier président libre après 89 fut le dramaturge Václav Havel. En 1982, Gelev avait publié un livre nommé « Fascisme » que les censeurs communistes avaient validé sans comprendre, pensant qu'il s'agissait d'attaquer l'ancien ennemi. Le temps de réaliser leur erreur, 3 semaines, le livre désormais interdit était devenu culte. Car Gelev s'en prenait moins au fascisme qu'au communisme, dont il expliquait qu'il était une forme de totalitarisme plus achevée encore, pénétrant plus profondément dans la sphère privée. Gelev disait que le totalitarisme transformait si profondément la condition humaine qu'après le communisme, les pays qui lui avaient été soumis passeraient sans doute par un stade fasciste. Et ainsi, sous le malentendu, le sourire était la gravité, peut-être la prophétie que l'on constate aujourd'hui. Dans les archives du Monde, sur Internet, j'ai retrouvé la trace d'une rencontre en 1994 entre Gelev et notre Mitterrand qu'il aimait beaucoup. Ils avaient eu cet échange. « Parfois, disait Gelev, je me sens dissident vis-à-vis de moi-même et j'ai envie de manifester devant mes propres fenêtres. » Mitterrand répondait « Quand j'aurai quitté mes fonctions, je voudrais que l'on mette sur mes cartes de visite François Mitterrand, dissident. Il est des mots qui sont des décorations. » Sur le site du Monde encore, puisqu'on en est au président, lisez un réjouissant voyage dans les relations passionnelles du journal de référence qui approche de ses 80 ans et de nos chefs d'État successifs. J'ai goûté l'échange entre deux géants qui ne se fréquentaient guère, De Gaulle et le directeur historique du Monde, Hubert Beuve-Méry. « Ah, le Monde !» disait le général. « Je le lis et je me divertis beaucoup. Mon général, ce n'est pas tout à fait le but que nous poursuivons. »
Et on termine... Belle imitation quand même.
On essaye.
Et on termine avec un autre journaliste.
Que Nord Littoral a justement mis à sa une et qui aurait été à Calais une figure familière, notre Thierry Roland, dit-on en ville. Il s'appelait Jean-Marcel Dauchard et il fut la voix des sports de Calais. Il avait joué au basket avec les frères Gall. Ce n'est pas rien. Il est mort mardi. À sa une, Libération, qui est le quotidien de la cinéphilie, honore Laurent Cantet, parti bien jeune à 63 ans. La photo est magnifique, comme cet homme qui ne tournait pas pour passer le temps, mais pour dire des utopies, des fragilités, des espoirs. La lutte classe, titre Libé à la une, et en page intérieure, le corps sur l'humain. L'humanité, qui ce matin raconte les morts au travail, dit de Cantet qu'il était un cinéaste humaniste. Le Figaro dit de lui qu'il était intranquille. Il est des mots qui se méritent.
Merci Claude Askolovitch. Il est 8h54 sur Inter. Planète Verte, la chronique environnement. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour à tous.
Et cette semaine, vous nous mettez en appétit, Célia. Dans votre rétroviseur, il y a un rapport sur les conséquences du changement climatique sur nos assiettes. Question, nos pâtes et nos pizzas vont-elles résister à la hausse des températures?
Pas sûr, c'est bien le problème. Un rapport scientifique de l'Institut pour une politique européenne de l'environnement le détaille très sérieusement. Le blé est menacé. Alors que vont devenir les pizzas, les pâtes et même la baguette de pain? Les sécheresses à répétition entraînent une baisse de 20% des rendements. La chaleur extrême peut réduire la photosynthèse. Les fortes pluies de printemps, les inondations mettent en danger les productions. En 2016, en France, les rendements ont chuté de près de 30%, un accident qui pourrait devenir récurrent.
Et l'huile d'olive aussi est en danger, comme les pommes de terre. Adieu la tortilla espagnole.
Les pommes de terre n'aiment pas le chaud. Des températures au-dessus de 30 degrés peuvent les décimer et leur rendement risque de diminuer de 18 à 30% dans les années à venir. Les olives non plus ne sont pas fans de sécheresse. La floraison est souvent avancée. Elle pourrait ne plus coïncider avec le cycle des abeilles. En 2022, année noire pour les olives, il manquait 4 millions de tonnes d'olives en Europe par rapport à l'année d'avant. Certains plats emblématiques, tortillas, frites, sont sont donc menacées, alertent les scientifiques. Et le risotto n'y échappe pas. Dans la vallée du Pô, en Italie, la production de riz a chuté de plus de 30% en 2022. Le Carnaroli, variété traditionnelle, a beaucoup souffert. Le nombre de grains a diminué de moitié.
Et justement, Célia, est-ce qu'il y a des solutions pour sauver tous ces plats mythiques ?
Oui, on parlait du riz, très gourmand en eau. Ce rapport le dit, il faudra trouver des astuces comme la réutilisation des eaux de pluie. Pour le blé, les pommes de terre, les pertes de récolte pourraient être évitées. Il faut des haies. Elles favorisent la rétention d'eau contre la sécheresse, de la jachère pour laisser reposer les sols, retrouver de la biodiversité. L'agroforesterie n'est pas un gros mot. Elle offre un abri au blé en cas de chaleur extrême. Pour les pommes de terre, les oliviers, le paillage peut aussi permettre au sol de rester plus frais, plus humide. Ce sont précisément ces solutions agroécologiques qui ont mis certains syndicats agricoles en colère cet hiver. En revanche, le modèle intensif met en danger nos traditions culinaires. Si on veut sauver nos pâtes, nos pizzas, il faut aider les cultures à être plus résilientes. Un texte de loi européen est là, tout prêt pour restaurer les terres dégradées. Mais la Hongrie risque de le bloquer. Dommage pour les oliviers.
Et dans votre viseur, Célia, il y a une actu marquante la semaine prochaine.
Le patron de Total Energy, Patrick Pouyanet, va être auditionné lundi au Sénat dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire ouverte en janvier avec une question. La stratégie de Total Energy est-elle compatible avec la politique climatique de la France ? Tout un programme. Les ONG l'attendent au tournant.
Merci, Célia Kiré.
France Inter.
Bonjour François Morel.
Bonjour. Une fausse nouvelle puis un rectificatif, ça fait deux informations, ce qui est rentable quand on est pigiste. La semaine dernière, j'annonçais l'interdiction du défilé de chameaux et dromadaires. Cette semaine, je rectifie. Le défilé de chameaux et dromadaires a bien eu lieu, mais pas sur les Champs-Élysées, pas sur le Champ de Mars, dans le bois de Vincennes. Vous me direz, on s'en fout, peut-être, mais quel crédit aurais-je désormais si je ne corrigeais pas une erreur passée ? Je présente donc mes excuses aux organisateurs, aux chameaux, aux dromadaires qui sont repartis chez eux. On ne sait pas ce qu'ils ont pensé de leur séjour en région parisienne. Certains chameaux, certains dromadaires ont quand même dû être déçus de ne pas fouler l'asphalte parisien, surtout après avoir pris connaissance du dernier classement d'un cabinet canadien placé sans Paris comme la deuxième ville d'Europe la plus agréable après Londres, mais avant Berlin. Les touristes aiment Paris. La mairie de Paris devrait leur donner le droit de vote aux prochaines municipales. Les dromadaires et chameaux venus en touriste samedi dernier n'ont pas pu cheminer sur les Champs-Élysées et c'est sûrement aussi bien. Ils auraient ressenti de la nostalgie en passant devant l'UGC qui bientôt va fermer ses portes. Avec émotion, ils se seraient souvenus de leur prestation dans Zodi et Théu, frères du désert. Dans l'histoire du chameau qui pleure, ils auraient évoqué leur déception après avoir visionné le film de Valeria Bruni Tedeschi au titre trompeur. Il est plus facile pour un chameau dans lequel n'apparaît scandaleusement aucun camélidé. Début d'une fable de La Fontaine, le chameau et les bois flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Autrement dit, on s'habitue à tout, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On s'habitue au rhumatisme, à la vue qui baisse, à l'extrême droite à 30%. Après La Fontaine, Apollinaire fut inspiré par le dromadaire. Avec ses quatre dromadaire, Don Pedro d'Alfa Rubera, courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. Autrement dit, le monde est beau avec ses dromadaires, ses chameaux, ses piétons, ses poètes, Paris, Vincennes, ses rêves d'ailleurs et ses rectificatifs. Le défilé des chameaux et des dromadaires a bien eu lieu, pas à Paris, mais à Vincennes. Dès la semaine prochaine, je rectifierai les erreurs contenues dans cette chronique.
Merci François Morel et on vous retrouve à la Scala pour votre carte blanche avec trois spectacles. J'ai des doutes, tous les marins sont des chanteurs et le dictionnaire amoureux de l'inutile. Ce sera du 14 mai au 23 juin.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 150 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Vous êtes bien sur France Inter, restez avec nous pour profiter de 15 minutes de plus avec Ali Badou et écouter Totémique de Rebecca.